Lizzie présente Le chien jaune de Georges Simenon, lu par Bruno Solo. Chapitre 1 : Le chien sans maître. Vendredi 7 novembre. Concarneau est désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus des remparts marque 11h05. C'est le plein de la marée et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les barques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol. Quai de l'Aiguillon, il n'y a pas une lumière. Tout est fermé. Tout le monde dort. Seules les trois fenêtres de l'hôtel de l'Amiral, à l'angle de la place et du quai, sont encore éclairées. Elles n'ont pas de volets, mais à travers les vitraux verdâtres, c'est à peine si on devine des silhouettes. Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envie, blotti dans sa guérite à moins de 100 mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et un phoque mal cargué claque au vent. Puis il y a le vacarme continu du ressac, un déclic à l'horloge, qui va sonner 11h. La porte de l'hôtel de l'amiral s'ouvre. Un homme paraît, qui continue à parler un instant par l'entrebâillement à des gens restés à l'intérieur. La tempête le happe, agite les pans de son manteau, soulève son chapeau melon qu'il rattrape à temps et qu'il maintient sur sa tête tout en marchant. Même de loin, on sent qu'il est tout guilleré, mal assuré sur ses jambes et qu'il fredonne. Le douanier le suit des yeux, sourit quand l'homme se met en tête d'allumer un cigare. Car c'est une lutte comique qui commence entre l'ivrogne, son manteau que le vent veut lui arracher et son chapeau qui fuit le long du trottoir. 10 allumettes s'éteignent. Et l'homme au chapeau melon avise un seuil de 2 marches, s'y abrite, se penche. Une lueur tremble, très brève. Le fumeur vacille, se raccroche au bouton de la porte. Est-ce que le douanier n'a pas perçu un bruit étranger à la tempête ? Il n'en est pas sûr. Il rit d'abord en voyant le noctambule perdre l'équilibre, faire plusieurs pas en arrière, tellement penché que la pose en est incroyable. Il s'étale sur le sol, au bord du trottoir, la tête dans la boue du ruisseau. Le douanier se frappe les mains sur les flancs pour les réchauffer, observe avec mauvaise humeur le phoque dont les claquements l'irritent. 1 minute, 2 minutes passent. Nouveau coup d'œil à l'ivrogne, qui n'a pas bougé. Par contre, un chien, venu on ne sait d'où, est là, qui le renifle. C'est seulement à ce moment que j'ai eu la sensation qu'il s'était passé quelque chose, dira le douanier au cours de l'enquête. Les allées et venues qui succédèrent à cette scène sont plus difficiles à établir dans un ordre chronologique rigoureux. Le douanier s'avance vers l'homme couché, peu rassuré par la présence du chien, une grosse bête jaune et hargneuse. Il y a un bec de gaz à 8 mètres. D'abord, le fonctionnaire ne voit rien d'anormal. Puis, il remarque qu'il y a un trou dans le par-dessus de l'ivrogne et que de ce trou sort un liquide épais. Alors, il court à l'hôtel de l'amiral. Le café est presque vide. Accoudée à la caisse, une fille de salle. Près d'une table de marbre, 2 hommes achèvent leur cigare, renversés en arrière, jambes étendues. « Vite ! Un crime ! Je sais pas !» Le douanier se retourne. Le chien jaune est entré sur ses talons et s'est couché au pied de la fille de salle. Il y a du flottement, un vague effroi dans l'air. « Votre ami, qui vient de sortir !» Quelques instants plus tard, ils sont 3 à se pencher sur le corps, qui n'a pas changé de place. La mairie, où se trouve le poste de police, est à 2 pas. Le douanier préfère s'agiter. Il s'y précipite, haletant, puis se suspend à la sonnette d'un médecin. Et il répète sans pouvoir se débarrasser de cette vision. Il a vacillé en arrière comme un ivrogne et il a fait au moins 3 pas de la sorte. 5 hommes, 6, 7, et des fenêtres qui s'ouvrent un peu partout. Des chuchotements. Le médecin, agenouillé dans la boue, déclare. Une balle tirée à bout portant, en plein ventre. Il faut opérer d'urgence. Qu'on téléphone à l'hôpital. Tout le monde a reconnu le blessé. Monsieur Mostaguen, le principal négociant en vin de Concarneau. Un bon gros qui n'a que des amis. Les 2 policiers en uniforme, il y en a un qui n'a pas trouvé son képi, ne savent par quel bout commencer l'enquête. Quelqu'un parle. Monsieur Le Pommeret, qu'à son allure et à sa voix, on reconnaît immédiatement pour un notable. Nous avons fait une partie de cartes ensemble au café de l'amiral, avec Servière et le docteur Michou. Le docteur est parti le premier, voilà une demi-heure. Mostaguen, qui a peur de sa femme, nous a quittés sur le coup de 11h. Incident tragicomique. Tous écoutent Monsieur Le Pommeret. On oublie le blessé. Et le voici qui ouvre les yeux. Essaie de se soulever. Murmure d'une voix étonnée, si douce, si fluette, que la fille de salle éclate d'un rire nerveux. Qu'est-ce que c'est ? Mais un spasme le secoue. Ses lèvres s'agitent. Les muscles du visage se contractent, tandis que le médecin prépare sa seringue pour une piqûre. Le chien jaune circule entre les jambes. Quelqu'un s'étonne. Vous connaissez cette bête ?
Je ne l'ai jamais vue.
Sans doute un chien de bateau.
Dans l'atmosphère de drame, ce chien a quelque chose d'inquiétant. Peut-être sa couleur, d'un jaune sale. Il est haut sur pattes, très maigre, et sa grosse tête rappelle à la fois le Matin et le Dogue d'Ulm. À 5 mètres du groupe, les policiers interrogent le douanier, qui est le seul témoin de l'événement. On regarde le seuil de 2 marches. C'est le seuil d'une grosse maison bourgeoise dont les volets sont clos. À droite de la porte, une affiche de notaire annonce la vente publique de l'immeuble pour le 18 novembre. Mise à prix, 80 000 francs. Un sergent de ville chipote longtemps sans parvenir à forcer la serrure. Et c'est le patron du garage voisin qui l'a fait sauter à l'aide d'un tournevis. La voiture d'ambulance arrive. On hisse M. Mostaguen sur une civière. Les curieux n'ont plus d'autres ressources que de contempler la maison vide.
Elle est inhabitée depuis 1 an.
Dans le corridor règne une lourde odeur de poudre et de tabac. Une lampe de poche éclaire sur les dalles du sol des cendres de cigarettes et des traces de boue qui prouvent que quelqu'un est resté assez longtemps à guetter derrière la porte. Un homme qui n'a qu'un par-dessus sur son pyjama dit à sa femme
« Viens, il n'y a plus rien à voir. Nous apprendrons le reste demain par le journal. Monsieur Servière est là. »
Servière est un petit personnage grassouillé, en paletot mastic, qui se trouvait avec Monsieur Le Pommeret à l'hôtel de l'amiral. Il est rédacteur au Phare de Brest où il publie entre autres chaque dimanche une chronique humoristique. Il prend des notes. Donne des indications, sinon des ordres, aux 2 policiers. Les portes qui s'ouvrent sur le corridor sont fermées à clé. Celle du fond, qui donne accès à un jardin, est ouverte. Le jardin est entouré d'un mur qui n'a pas 1,50 m de haut. De l'autre côté de ce mur, c'est une ruelle qui débouche sur le quai de l'Aiguillon.
« L'assassin est parti par là !»
annonce Jean Servière. C'est le lendemain que Maigret établit tant bien que mal ce résumé des événements. Depuis 1 mois, il était détaché à la brigade mobile de Rennes, où certains services étaient à réorganiser. Il avait reçu un coup de téléphone alarmé du maire de Concarneau. Et il était arrivé dans cette ville en compagnie de Leroy, un inspecteur avec qui il n'avait pas encore travaillé. La tempête n'avait pas cessé. Certaines bourrasques faisaient crever sur la ville de gros nuages qui tombaient en pluie glacée.